Mais c'est vrai, quand le Seigneur va revenir, comme a dit Marcel, il peut revenir à n'importe quel moment. Et il voudra nous trouver dans notre vie, et en particulier dans notre travail, faisant sa volonté. Donc c'est important de... Les deux choses ne sont pas étrangères, si je puis dire. Le retour du Seigneur et la vie qu'on mène. Hein, il a parlé du bon serviteur quand il va revenir. Donc, on a effectivement eu deux messages hier. Donc, tout le monde n'était pas là. Je vais essayer de résumer un tout petit peu pour remettre dans le contexte. Donc, en fait, la réflexion que je me faisais hier, c'était personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, quand je suis devenu chrétien, je voyais pas très bien quelle était la place du travail, en particulier le travail séculier, le travail rémunéré, dans la vie chrétienne. Je voyais bien la prière, la lecture de la parole, les actions d'évangélisation, les communions fraternelles, tout ça étant bien, bien placé, je dirais, dans la vie chrétienne. Mais en revanche, le travail, quel était son rôle ? Et la question, c'était, est-ce que mon travail séculier est une perte de temps pour le Seigneur ? Je voudrais dire aussi, je reviendrai là-dessus, que je pense que je reviendrai là-dessus dans ce message, mais qu'il y a travail, mais il y a le travail séculier, rémunéré, c'est surtout le focus de mes messages, mais il y a aussi du travail qui n'est pas rémunéré, mais qui est du travail. Je pense en particulier au rôle des mamans en tant qu'épouse et mère, et tout le temps qu'elles passent. On a parlé, on reparlera de la femme, la femme de Proverbe, la femme vertueuse de Proverbe. Donc c'est du travail, mais j'ai envie de dire ça pose presque moins de questions que ce soit quelque chose qui est valable devant le Seigneur que le travail séculier. C'est pour ça que j'en parle moins, mais j'insiste sur le fait qu'une maman ou une épouse qui a fait le choix de ne pas avoir de travail professionnel pour élever ses enfants et pour s'occuper de son foyer, elle a un rôle fondamental dans la structure familiale, dans la stabilité chrétienne de sa famille, et ce qu'elle fait est extrêmement louable, même si c'est pas l'opinion du monde aujourd'hui. Donc ce qu'on a vu hier, c'est que on a vu qu'il y avait différents, que Dieu appelle les hommes, il les appelle au salut, il les appelle à des ministères de prophètes. Mais on a vu que dans un certain sens aussi Dieu, il y a un appel de Dieu dans notre travail, et c'est le concept de vocation qui a été beaucoup développé par les réformateurs protestants au XVIe siècle. Et en fait, on a vu que le travail de l'homme, Dieu lui a donné comme mission de dominer sur la création. Donc c'est une mission qui est donnée à l'homme par Dieu dans Genèse. Et on a vu aussi que dans ce concept de vocation, Dieu agit au travers des hommes par leur travail. Hein? J'avais pris un exemple simple, c'est celui de la production agricole, celui d'un boulanger. Ben, en fait, quand on prie le Seigneur qui nous donne notre pain de ce jour, cette prière, elle est réalisée par le fait qu'il y a un boulanger, enfin, il y a un agriculteur qui va moissonner le blé, il y a un boulanger qui va faire du pain. Et donc, c'est ainsi que la prière du Seigneur, qui est une prière la plus simple, mais la plus importante qui soit quelque part, enfin, la prière du Seigneur, ben c'est comme ça qu'elle est réalisée. Donc effectivement, le travail que nous faisons, Luther a même dit que c'était le masque de Dieu. Que Dieu derrière notre travail, il y a Dieu qui est caché et qui agit pour le monde. Et donc, c'est vrai de toutes les bonnes choses dont nous bénéficions. J'ai parlé du pain, mais c'est vrai de nos logements, de l'énergie électrique, la lumière, les transports, la médecine, le maintien de l'ordre, du gouvernement, toutes ces choses qui sont bonnes et que Dieu nous donne, qui sont des bénédictions de Dieu, il les fait par l'intermédiaire de notre travail. Donc il y a, notre travail est une vocation, c'est un appel de Dieu, on a un appel de Dieu dans ce qu'on fait, et il faut voir ça comme étant une mission qu'on fait pour Dieu et à laquelle il nous a appelés. Alors, j'ai parlé donc effectivement du rôle de maman. Donc il y a des vocations, les vocations ne se limitent pas seulement au travail professionnel, il y a des vocations d'être une, par exemple, une mère de famille, mais on a aussi une vocation d'être époux ou épouse, on a aussi une vocation d'être enfant, donc on s'y en appel, puisque l'appel c'est l'état dans lequel on se trouve, d'après 1 Corinthiens 7, donc on peut être enfant, on peut être père, mère, époux, épouse, citoyen aussi. Dans toutes ces vocations, on doit. Ce sont des appels de Dieu pour servir le monde. Puis on a vu aussi qu'il y avait des choses qui sont des travails, hein, mais qui ne sont pas des vocations, qui ne peuvent pas être des appels de Dieu, parce qu'ils n'ont pas pour vocation de servir, de bénir le monde, mais ils ont pour vocation de le détruire. Donc j'avais pris l'exemple, par exemple, d'un médecin qui pratiquerait des avortements ou quelqu'un qui produirait des films pornographiques ou des choses comme ça, bon, qui sont des choses qui peuvent être légales dans le monde, absolument légales, mais qui ne peuvent pas être des vocations, des appels de Dieu, parce que pour bénir le monde, plutôt, ils vont chercher à le détruire. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, on va se concentrer sur les instructions de la Bible sur le plan de l'éthique du travail. Un point aussi que je dois rappeler, que j'ai oublié, mais c'est important de le dire. En fait, on a eu deux messages. Le deuxième message, c'était sur ce concept de vocation. Donc, on avait appelé ça la rédemption du travail. Mais le premier message, c'était sur la malédiction du travail. Et j'insiste sur le fait que le travail n'est pas une malédiction. Et vous pouvez l'écrire en gros caractères dans vos Bibles ou je ne sais où. Le travail, en soi, n'est pas une malédiction parce que Dieu avait donné une mission de travail avant la chute, qui était de cultiver le jardin d'Éden. Donc le travail n'est pas une malédiction. Mais le travail a été maudit. Il y a une malédiction sur le travail à cause de la chute. Et on a vu que cette malédiction, elle se manifestait de plusieurs façons, notamment la pénibilité du travail, le fait qu'on ait des faibles rendements, que le travail c'est difficile, c'est fatigant, qu'on n'a pas toujours le succès qu'on voudrait, parfois beaucoup d'échecs. On a vu aussi qu'il y avait dans le travail de l'oppression. Donc l'oppression dans le travail, on reviendra un petit peu sur ce thème aujourd'hui, donc dans la relation avec l'employeur, l'oppression où des gens sont opprimés, on avait parlé en particulier des esclaves en Égypte, mais il y a aussi aujourd'hui le phénomène, ce qu'on appelle le harcèlement moral. Et puis, on a parlé aussi de la futilité, le fait que sans Dieu, si on n'a pas une vision divine, le travail c'est quelque chose qui rime pas à grand-chose, hormis gagner sa vie. On se demande bien à quoi ça sert de travailler. Et en particulier, l'Ecclésiaste éclaire pas mal là-dessus. On se rend compte que l'Ecclésiaste, il dit, mais j'ai fait des choses, mais tout ça, c'est du vent. Hein. Et donc, il y a aussi une malédiction du travail qui est, je dis bien une malédiction du travail sans Dieu, qui est la futilité du travail, la perte de sens. Maintenant, donc, on va regarder aujourd'hui les instructions de la Bible sur le plan éthique. Alors, je préfère vous dire que le message doit durer bien 45 minutes. Je vous dis ça parce que c'est après déjeuner et il va falloir lutter pendant 45 minutes. Contre le sommeil. Je vous le dis, hein. Je préfère pas que vous disiez, oh, il y en a d'habitude, c'est 20 minutes, puis au bout de 20 minutes, vous dites 45 minutes au moins. Et il y aura des questions. Voilà, que vous n'ayez pas trop d'espoir sur... Donc on va voir trois choses, ça vous permettra aussi de voir où on en est. Trois choses dans trois parties. Première partie, c'est... Première catégorie, donc on va regarder... Le premier catégorie de thème, la quantité et la qualité du travail. Donc on regarde les aspects éthiques du travail. Et d'abord sur l'aspect, première partie, l'aspect quantité et qualité du travail. Ensuite on va regarder, la deuxième partie c'est le rapport entre le travail et l'argent. Et la troisième partie c'est les relations de travail. Donc tout d'abord quantité et qualité du travail, les aspects éthiques portant sur la quantité et la qualité du travail. Ensuite, les aspects éthiques portant sur le rapport entre le travail et l'argent, et troisièmement, les aspects éthiques portant sur les relations de travail, c'est-à-dire les relations avec la hiérarchie et avec les collègues. Donc, vous avez peut-être les notes, si vous ne les avez pas, je vous donnerai les références bibliques, donc les notes contiennent les principales parties et les versets. Donc, on va parler d'abord de les instructions liées à la quantité de travail. Et en particulier, on va parler de la vertu de l'industrie, la vertu de l'industrie dans le livre des Proverbes. Donc on va pas mal regarder le livre des Proverbes. Donc effectivement, le travail, c'est un des thèmes favoris du livre des Proverbes. J'ai fait une revue très rapide du livre et je me suis rendu compte que le thème du travail était au moins dans 14 des 31 chapitres contre le livre. Donc le travail dans le livre des Proverbes, c'est très important. L'oisiveté, donc dans ce livre, est dénoncée avec fermeté et même avec ironie. Le paresseux est présenté comme quelqu'un qui a des désirs insatisfaits. Il poursuit des choses vaines, il est dépourvu de sens, il s'invente des prétextes pour pas travailler, il y a un lion dans la rue, donc c'est souvent assez ironique d'ailleurs. Il aime beaucoup son sommeil, c'est son endroit préféré, son lit est son endroit préféré, et c'est quelqu'un qui fait honte à ses parents. Et le résultat de son comportement, c'est la pauvreté. Mais c'est vraiment comme ça que les proverbes le décrivent. Hein. C'est très, très sarcastique. Hein. Donc, par exemple, en Proverbe 24, versets 30 à 33, Proverbe 24, versets 30 à 33, « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Ensuite, on a aussi, donc dans Proverbe 26, versets 13 à 15, « Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. » Vous voyez l'image est... Il y avait beaucoup d'humour, même pas peut-être 1000 ans avant Jésus-Christ, hein, 800 ans avant Jésus-Christ. « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. » Donc là, c'est vraiment... c'est grave. En contraste au paresseux, l'honneur est rendu à l'homme travailleur dans le livre des Proverbes. Donc notamment dans Proverbes au chapitre 6. Donc l'homme travailleur, il est rassasié de pain, il s'enrichit, à tel point qu'il peut donner sans parcimonie. Et donc le passage qu'on va regarder de versets 6 à 11, il a peut-être inspiré Jean de La Fontaine. Alors Jean de La Fontaine, on l'a cité hier avec Albert. Bon, c'est, les gens de ma génération le connaissent. Apparemment, ils ne leur apprennent plus pour les plus jeunes. Mais c'était un très grand poète français de l'époque de Louis XIV, donc, qui a écrit une fable très connue qui s'appelle « La cigale et la fourmi ». Et donc... effectivement, ce passage donc du verset 6 à 11, il recommande de prendre exemple sur la fourmi, qui est travailleuse et prévoyante. Et elle est mise en contraste aux paresseux que guettent la famille et la pauvreté. Donc, Proverbe 6, verset 6. « Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Il y a donc un autre passage dans le livre des Proverbes sur le travail qui est, donc, que j'ai évoqué, c'est Proverbe 31, donc sur la femme vertueuse. On en a parlé déjà hier, mais on peut revenir là-dessus. Donc, elle est un parfait exemple sur le plan humain de cette vertu de l'industrie. Donc, Proverbe 31. Au verset, donc là vous l'avez dans les notes, est-ce que je l'ai remis là? Vous l'avez dans les notes du premier chapitre, au tout début de la première page des notes, vous l'avez, sinon dans vos Bibles. Hein, Proverbe 31, donc on voit au verset 13, elle travaille d'une main joyeuse. Au verset 14, elle est comme un navire marchand. Au verset 15, elle se lève quand il est encore nuit. Au verset 16, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Encore verset 18, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Et donc le résultat de son travail, c'est trois choses. D'abord la confiance dans l'avenir, verset 25, elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir. Ensuite, un mari respecté, verset 23, son mari est respecté aux portes. Et puis on voit, troisièmement, la possibilité de donner aux pauvres. Comme l'homme riche, elle est capable de... Parce qu'elle gagne... le travail lui permet de gagner de l'argent. Elle a la possibilité de donner aux pauvres. Donc verset 20, elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Donc la parole de Dieu, on voit qu'elle élève au plus haut point cette vertu de l'industrie. Et elle n'a pas de mots trop sévères pour l'oisiveté. Donc c'est vraiment un enseignement qu'on doit retenir. Et là, la parole, elle recommande cette vertu, non seulement parce qu'elle est une vertu en soi, mais également parce qu'elle fait du bien à ceux qui la pratiquent et à ceux qui les entourent. Et je pense qu'on n'insistera pas trop, je ne peux pas trop insister sur ce point que... L'industrie, donc, c'est-à-dire le fait de travailler avec assiduité, est une vertu selon la Bible. Je le dis à tout le monde, je le dis en particulier aux jeunes, parce que la société dans laquelle on est va complètement dans la direction opposée. C'est la direction opposée. Et dans notre société, le travail a de moins en moins une valeur importante. Il y a eu donc un candidat aux dernières élections, il y en a dans tous les pays, qui prône la même chose, c'est le revenu universel. Donc l'idée en gros, c'est que l'État qui contrôle tout donne de l'argent aux gens et les gens restent chez eux, ils font n'importe quoi. Et ce qui est important, c'est que tout le monde a revenu. Et donc on voit donc ces programmes de revenu universel. Et même dans nos sociétés, il y a déjà beaucoup de gens qui vivent des subsides de l'État sans travailler. Et souvent, c'est pas une condamnation que je fais de ces gens-là, mais enfin c'est un fait. Mais c'est pas conforme à une vision biblique du travail. On reviendra tout à l'heure à la relation qu'il y a entre le travail et l'argent, mais on peut déjà introduire le principe, un principe très proche de ce qui a été exprimé dans le Proverbe et qu'on a dans 2 Thessaloniciens 3:10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est un principe là, fondamental. Et donc des programmes d'aide sociale permanente, même s'ils sont bien intentionnés, vont à l'encontre de cette sagesse biblique. Et j'insiste encore, comme je pense que j'ai déjà fait hier, que un chrétien doit absolument rechercher à travailler pour subvenir à ses besoins. J'ai dit donc qu'il peut être très industrieux aux sciences bibliques sans nécessairement avoir un travail rémunéré. Ça peut être le cas d'une maman. Ça peut être le cas d'un jeune qui prépare ses études. Mais une personne qui est en situation de pouvoir travailler doit le faire dès qu'elle le peut, quitte à prendre un travail qui ne correspond pas à ses ambitions, mais il faut mettre le pied à l'étrier. J'insiste là-dessus auprès des jeunes parce que vous allez être confronté à cette situation. Et bon, c'est bien de faire des études. Moi, j'ai fait des études. Mais la société pousse énormément à repousser le moment d'entrée sur le marché du travail. Faire des études. Bon, mais il y a un moment, il faut mettre le pied à l'étrier et travailler. Et le travail, on l'a vu hier, il n'y a pas de... Alors j'avais écrit tous les métiers sont nobles, évidemment, sauf ceux qui sont des choses de péché, mais tous les métiers sont nobles. Il ne faut pas chercher absolument, si on n'en a pas la capacité, de pouvoir se pousser à faire des choses qui sont au-delà de nos capacités. Il faut faire un travail en fonction de ce qu'on peut faire, mais il faut travailler. Donc, on va parler de la quantité de travail, on a parlé de la vertu de l'industrie, on va parler de la quantité de travail ensuite. Et donc, en fait, on a vu qu'une personne a plusieurs vocations. Elle n'a pas une seule vocation, c'est pas seulement son travail professionnel, mais elle a aussi la vocation de fils ou de fille, la vocation d'époux. Elle peut avoir, si elle est mariée, la vocation donc d'époux, de père ou de mère, si elle a des enfants. Elle a aussi une vocation de chrétien impliqué dans son église et une vocation de citoyen. Et chaque vocation est faite devant Dieu, et il n'est pas normal qu'une vocation prenne le pas sur les autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit répartir son temps de façon équitable, 3 heures pour le travail, 3 heures pour mes enfants, 3 heures pour ma femme, 3 heures pour le fait de l'église, etc. On a un contrat à travail avec l'employeur, et si on se met à s'occuper de nos enfants, ou de notre épouse, ou de notre époux pendant les heures de travail, il ne va peut-être pas être d'accord. Mais il y a l'excès inverse, c'est... il y a une expression en français, je ne sais pas si elle existe dans d'autres langues, mais c'est une expression séculière. Hein. Il a sacrifié son mariage sur l'autel de son travail. C'est vraiment une expression en français qui veut dire ce qu'elle veut dire. Il a sacrifié son mariage sur l'autel de son travail. C'est-à-dire quelqu'un qui il a tellement travaillé qu'il a sacrifié sa famille, en fait. Et puis il a fini par divorcer, les enfants ont des problèmes. Et le travail, donc, c'est un travail qui devient une idole. Et comme toute idole, on lui offre des sacrifices. Et donc il y a beaucoup de mariages qui ont été... brisé comme ça, et des enfants qui ont souffert. En fait, la personne, elle a fait ça pourquoi ? Pour être... C'est pas pour être fidèle à Dieu dans sa vocation professionnelle, mais c'est pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de pouvoir. Donc il y a donc un équilibre nécessaire, non pas entre le travail et la vie privée, mais entre nos différentes vocations. On entend ça, il faut avoir un équilibre entre le travail et la vie privée, mais je pense qu'on peut plutôt dire que c'est un équilibre entre nos différentes vocations. On doit aussi... Même un père, si c'est dans une famille où la maman ne travaille pas et qu'elle s'occupe des enfants, le père, il a du temps à passer avec les enfants. Il ne doit pas être un père absent, très important qu'il soit présent avec eux. Alors, il y a l'autre limite au travail aussi, donc toujours dans le thème de la quantité de travail, c'est le repos. Donc, mardi, on va parler en particulier du repos de sabbat. Mais je voudrais dire quand même quelques mots sur le repos pour les personnes qui ne sont pas là mardi. En fait, la loi, donc la Bible loue la vertu de l'industrie, mais la loi de Dieu institutionnalise le repos. Et c'est le repos de sabbat. Et le sabbat, ce n'est pas un repos végétatif où on s'affale devant la télé ou devant une console, avec une console de jeu. C'est un jour qui est entièrement consacré au Seigneur, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est quelque chose de pesant, de long, de très ennuyant. Ce n'est pas du tout ça. Le repos, c'est un jour de joie. C'est d'être vu comme un jour de joie. Et c'est un temps qu'on va passer au culte, c'est un temps qu'on va passer aussi en famille. On peut aussi faire une bonne sieste, parce que c'est un jour de repos. Et c'est triste de voir que le monde dans lequel on est, qui est complètement sous l'emprise de Satan, il a réussi dans les 30 dernières années, 40 dernières années, à supprimer le dimanche. Moi, quand j'étais enfant, il n'y avait rien d'ouvert le dimanche. Maintenant, tout est ouvert le dimanche. Et c'est pas vieux, ça date d'il n'y a pas longtemps. Donc ça doit être un vrai moment de détente, mais qui est sous le regard du Seigneur. Ça doit être un jour joyeux, comme c'est le jour d'aujourd'hui, un moment où on est bien, et c'est un avant-goût de la vie éternelle. Donc on en parlera en détail mardi, de ce thème du repos, pour ceux qui pourront venir. Maintenant on va parler de la qualité du travail. Je vais parler de quantité de travail, donc maintenant la qualité du travail. Et donc le thème de l'excellence. Et en fait, je voudrais que vous posiez une question, c'est quand Jésus faisait une chaise ou un meuble ou une pièce de menuiserie, une pièce de charpente, est-ce qu'elle était bancale? La Bible n'en parle pas, mais la Bible nous dit quand même en Marc 7, 37 qu'il faisait tout à merveille. Et je pense que ça valait aussi pour les tables, les chaises. Et tout ça avec conscience professionnelle, puisqu'il avait certainement une excellence dans le travail, on ne peut pas imaginer. On a vu aussi qu'on a été créé à l'image de Dieu et on a reçu l'instruction de l'imiter dans le travail, d'imiter Dieu. Puisqu'on a vu que dans Exode, il nous dit qu'il a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e, mais on devait faire pareil. Donc on doit imiter Dieu. Et ce que Dieu fait est parfait. C'est très bon, nous dit la Genèse. Et notre travail a une vocation, il travaille par notre intermédiaire et donc on doit faire comme lui. En particulier, je pense par exemple, si un chrétien voit son travail comme une mission confiée par Dieu pour répandre l'amour de Dieu sur les autres, ben, il va s'attacher à faire ce qu'il fait de façon parfaite. J'ai pris l'image hier de deux maçons qui font une maison. Il y en a un qui est chrétien, l'autre qui n'est pas chrétien. Ils peuvent faire exactement la même maison, ou des gens qui sont dans le domaine du bâtiment, peut-être l'aménagement d'intérieur. Ils peuvent faire leur travail exactement de la même façon. Mais il y en a un qui va le faire bah, parce qu'il faut le faire. Et puis l'autre, quand il va le faire, il va se dire, il y a des gens qui vont habiter dans cette maison. Et je veux que la maison soit parfaite. Parce que je veux que quand ils rentrent dans la maison, ce soit super. Qu'il n'y ait pas de... Que la peinture soit bien, qu'il n'y ait pas des trucs gâchés, bâclés. Je veux que ce soit parfait pour qu'ils soient bien dans leur maison. Ça, c'est une réaction chrétienne de vouloir servir son prochain avec avec l'amour de Dieu. C'est ça, en fait, la vocation. Et si on est guidé par ce genre de sentiment, hein, de conscience, ben on va faire les choses parfaitement, on va faire les choses avec qualité. Donc il y a une qualité d'excellence. Et je suis sûr que Jésus, quand il faisait ses charpentes, il devait se dire, ça doit être parfait. Et vous êtes tous dans des appartements, des maisons que vous n'avez pas fait vous-même, et vous dites, oh, ça, c'était fait n'importe quoi, c'était fait n'importe comment. Et on travaille pas nécessairement devant les yeux des hommes, mais on travaille devant Dieu. En fait, tout ce qu'on fait, on doit le savoir, même si les hommes le voient pas, Dieu le voit. Colossiens 3, 22 dit ceci, il utilise cette expression, non pas seulement sous les yeux, il parle du travail, non pas seulement sous les yeux de vos maîtres, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc, on a donc là un principe pour notre vie chrétienne, c'est pas seulement sous les yeux de nos maîtres, mais c'est aussi sous les yeux du Seigneur. Luther disait que la vie chrétienne doit être menée, il disait un mot latin, coram Deo, qui veut dire devant Dieu. Tout ce qu'on fait, tout le temps, c'est devant Dieu. Maintenant, on va parler du choix d'une vocation professionnelle. C'est toujours, j'ai mis ça dans cette partie sur la qualité du travail. Le choix de la vocation professionnelle. On a vu que tous les métiers légaux ne sont pas des vocations. mais qu'une vocation doit avoir pour objectif de servir les autres et pas de leur nuire. Donc on a cité des exemples de choses qui n'étaient clairement pas des vocations, des choses qui sont liées à l'immoralité ou la débauche. Mais ce qui rend le choix d'une vocation difficile, c'est qu'en fait on est intégré, notre monde est devenu très compliqué, très complexe, et en fait on est intégré dans ce qu'on appelle une supply chain, donc une chaîne d'approvisionnement, et parfois on ne sait pas bien ce qu'on fait, à quoi ça va être utilisé. Ça peut être utilisé à des bonnes choses ou à des mauvaises choses. Et puis ensuite, la question aussi de savoir si une chose, si un domaine est bon ou pas bon, c'est lié en fait un petit peu à la question de liberté chrétienne. Paul dit « tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Mais il dit « tout est permis ». Donc les gens peuvent avoir des visions différentes sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Par exemple, les chrétiens auront des visions différentes sur le fait de travailler dans l'industrie du cinéma, ou de travailler dans l'industrie du vin, par exemple. Travailler dans l'industrie des cosmétiques. Je pense que les chrétiens pourraient vraiment avoir des visions et des approches différentes de ces questions-là. Je pense que chacun doit résoudre ces questions dans son cœur, mais dans cette phrase de Paul qui est dans 1 Corinthiens 10, il dit ceci, « Tout m'est permis, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Donc dans ce qu'on fait, on doit se poser la question de « Est-ce que ce que je fais moi, est-ce que ce que fait mon entreprise ?» répond à cette question et il peut satisfaire, enfin contribuer à l'intérêt d'autrui. Est-ce que le métier que je fais peut me permettre de servir mon prochain? Je pense que le plus souvent la réponse est oui, mais je pense que c'est le test en fait. Le test c'est est-ce que ce que je fais me permet de servir mon prochain? Maintenant, deuxième partie, on a fait un tiers. C'est pour vous encourager. Deuxième partie, les instructions liées au rapport entre le travail et l'argent. Instructions de la Bible liées au rapport entre le travail et l'argent. Si je vous posais la question, si j'avais posé avant ces messages la question « Quel est le but du travail ?», j'espère que beaucoup auraient répondu « C'est gagner de l'argent, gagner sa vie. » Parce que c'est effectivement le but du travail. Mais on a vu aussi que le but est beaucoup plus large. Mais gagner sa vie, c'est une raison légitime pour travailler. Et donc on a cité déjà ce passage célèbre de Thessaloniciens, et là on va reprendre le passage dans son entier. Donc 2 Thessaloniciens 3, 6, et je ne sais pas si je l'ai mis in extenso. 2 Thessaloniciens 3, 6 à 12. Non. Donc je vais le lire, sinon vous pouvez le prendre dans vos Bibles. Hein. 2 Thessaloniciens 3, 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur pain, leur propre pain, en travaillant paisiblement. Donc, on voit ici donc ce principe. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Donc l'obtention d'un revenu, elle doit être directement liée à un travail. C'est confirmé par ce que Paul dit ici. Dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge de personne. Donc, Paul, qui était un homme extrêmement occupé, il a tenu à travailler pour n'être à la charge de personne. Alors qu'il a expliqué qu'il aurait pu ne pas le faire, mais il a tenu à le faire. Et il nous donne ici un exemple. Alors il parle du travail dans la peine, ça fait écho à Genèse 3,19 qui dit « C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain ». Et c'est passé dans l'expression en français « On gagne son pain à la sueur de son front ». Mais il y a une connotation positive dans cette expression, hein, qui qui veut dire que l'argent, pour notre subsistance, il doit être gagné par le labeur, ce qu'on appelle le labeur en français, qui a cette le labeur en français, ça a une connotation de travail dur. Et je pense que c'est de là que vient le fait que les chrétiens rejettent catégoriquement les jeux d'argent. Parce qu'en fait, les jeux d'argent, ça consiste à gagner de l'argent. Alors, en dehors du fait que c'est quelque chose qui est complètement addictif et qui ruine les gens, en fait, mais l'idée, la volonté dans le jeu d'argent, même dans un tac au tac, c'est de gagner de l'argent sans travailler. Et donc ça, c'est pas biblique. Et c'est aussi pour ça, encore une fois, que les systèmes d'aide, comme le revenu universel, etc., quand ils institutionnalisent une oisiveté rémunérée, ne sont pas bons. Ils sont mauvais. C'est important, ça, parce que, encore une fois, dire ce que je dis aujourd'hui va complètement à contre-courant. C'est pas la pensée du monde. Mais c'est bien la pensée de la parole de Dieu. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait d'aide. C'est pas ce que je dis. Mais, et d'ailleurs, il y a un verset dans Éphésiens 4, 28 qui évoque le fait qu'il y ait des gens qui aient besoin d'être aidés, qui dit, Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc il y a des gens qui sont dans le besoin, la Bible le reconnaît. Notre argent doit permettre d'aider ceux qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont sans subsistance. C'est un cas. Il y a aussi des gens qui sont au chômage, dans des situations difficiles, ou des gens qui ont fait face à une grosse dépense et en fait ils ont besoin d'aide. Donc l'aide en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais le principe de base, le principe pour les chrétiens, c'est qu'on gagne son pain à la sueur de son front. Alors évidemment, l'argent que nous gagnons, donc, il va nous servir à aider les pauvres, ceux qui sont dans le besoin, et c'est très important que nous ayons ça à cœur. Il va aussi aider à soutenir l'Église par nos dîmes et nos offrandes. Galates 6:6, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il y a beaucoup d'autres versets sur ce sujet. Que notre travail, si on ne travaille pas, on va pas pouvoir. L'Église, elle a des budgets. Il y a des pasteurs qui sont rémunérés, et c'est aussi évidemment une vocation. On l'a vu hier, une vocation de très haut niveau. Et donc, ils ont besoin d'être soutenus. Il y a des locaux. Donc, les besoins sont importants. Nous savons que nos frères et sœurs de l'Église de Sarcelles, ils ont maintenant une salle, mais il y a un besoin de financement. Et j'allais dire, ils auraient peut-être même besoin d'avoir un ou deux donateurs très généreux. Et ça pose la question de savoir si un chrétien peut gagner beaucoup d'argent. Est-ce qu'un chrétien peut gagner beaucoup d'argent? La question a été posée hier. Un candidat aux élections présidentielles en France avait dit « travailler plus pour gagner plus ». Et moi, je dirais « gagner plus pour donner plus ». Donc, on va parler un petit peu de cette question. Est-ce qu'un quelqu'un peut gagner beaucoup d'argent? Donc, Jésus a mis en garde contre les dangers de la richesse. Notamment quand il a parlé avec le jeune homme riche, il lui a dit « Il est plus facile à un chameau, enfin il l'a pas dit à lui, il l'a dit à ses disciples, après l'échange avec le jeune homme riche, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc ce contre quoi Christ met en garde, c'est l'amour de la richesse. C'est de faire de l'argent d'une idole, il l'appelle dans d'autres passages mammon. Et le problème du jeune homme riche, c'est qu'il est dépendant de son argent, incapable de s'en débarrasser. Paul nous éclaire bien le sujet en 1 Timothée 6. D'abord, il nous dit ceci. Il nous dit, donc, je pense que c'est verset 9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc là, il parle de ceux qui veulent s'enrichir, et qui ont l'amour de l'argent. Donc là, c'est, dit-il, une racine de tous les maux. Mais ce problème-là, il peut toucher ceux qui ont de l'argent aussi bien que ceux qui n'en ont pas. On peut gagner 1200 euros et vouloir à tout prix en gagner 1500. On peut gagner 5000 euros et vouloir à tout prix en gagner 5000. Et dans les deux cas, ces gens sont motivés par la cupidité. Et le problème de l'argent, il est lié à ce à quoi on l'utilise, à notre train de vie, à nos priorités. Si on veut absolument avoir une grosse voiture, une grosse maison, des vacances chères, un iPhone au lieu d'un Android. C'est vrai. On va se rendre compte, mais c'est vrai, on va se rendre compte qu'on a du mal à donner à l'Église. Non, c'est vrai que si on veut toutes ces choses-là, c'est important, si on veut une grosse voiture, une grosse maison, le dernier téléphone à la mode, ben on va se dire, ah ben, je ne peux pas donner à l'Église. La dîme, c'est trop pesant, c'est trop, la dîme, c'est dans l'Ancien Testament. Je ne peux pas donner à l'Église parce que je n'ai pas les moyens. Mais je pense qu'effectivement, la loi de la dîme ne s'impose pas à nous. En fait, il faut donner beaucoup plus. Non, je pense que c'est quelque chose que nous devons méditer. Maintenant, si nous gagnons bien notre vie, si vous gagnez bien votre vie, donnez. Je pense que c'est ça le message. En reprenant ce que disait, travaillez plus pour gagner plus, oui, mais gagnez plus pour donner plus. Pas juste pour enrichir, mais pour donner plus. Et d'ailleurs, Paul continue, hein, Timothée 6, 17, il dit ceci, « Recommande aux riches du temps du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. » Donc Paul parle aux riches, il dit à Timothée, il faut que tu parles aux riches aussi, ça ne veut pas dire que les riches doivent disparaître. Non, il dit, parle-leur, ne soient pas orgueilleux, ils ne doivent pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais ils doivent la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc c'est Dieu aussi qui leur donne. C'est Dieu qui les a fait riches, c'est Dieu qui a fait Abraham riche, c'est Dieu qui a fait, je pense qu'Isaac aussi est un homme riche, c'est Dieu qui a fait ces hommes-là riches. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Donc, si vous êtes amené à faire un travail bien rémunéré ou à bien gagner votre vie, d'abord n'en tirez pas d'orgueil, mettez pas votre confiance dans votre argent et donnez généreusement. Je pense que c'est vraiment une vision importante. Maintenant, troisième partie, nous allons aborder les instructions portant sur les relations dans le travail. Alors, il y a 2 ans, j'ai dit à Albert que j'allais préparer cette étude. On était en plein milieu des grèves SNCF de 2018. Et puis là, je fais l'étude 2 ans après, on a encore eu d'autres grèves. Parce que de toute façon, en France, on a des grèves tous les ans. Donc on a eu les grèves de décembre 2019. Et donc la question qui se pose, que Albert me demandait de ne pas oublier de traiter dans ce message, c'était est-ce que ces choses-là, est-ce que ces mouvements étaient justifiables sur le plan biblique? Alors, avant d'y répondre, je voudrais raconter un peu une histoire. Je pense que certains d'entre vous la connaissent, peut-être les moins jeunes, les plus jeunes ne la connaissent pas. Ça s'est passé en Angleterre lorsqu'il y a eu la guerre en 1940. Donc en 1940, Hitler envahit la France, il a bousculé les armées françaises et anglaises qui étaient en France. Les Anglais ont pu, l'essentiel de leur armée a pu rentrer en Angleterre de façon assez héroïque, donc à partir de Dunkerque, ils ont pu rentrer. Mais ils n'avaient plus leurs armements, ils avaient dû laisser leurs chars, etc. Donc, et tout le monde se disait, ben maintenant, ce que Hitler va faire, c'est qu'il va envahir l'Angleterre. Et donc, c'était vraiment une inquiétude tout à fait valable, parce que c'était le projet d'Hitler. Et ce qu'Hitler a commencé à faire, il a dit, on envahira l'Angleterre quand on aura détruit son aviation. Et donc, il a commencé à bombarder l'Angleterre. Donc, c'était l'été 40, été et l'automne 40, vers septembre. Mais les Anglais, qui sont un peuple courageux et décidé, ont lutté fermement et ils ont repoussé Hitler et ils ont gagné la bataille d'Angleterre et Hitler en fait n'a jamais débarqué en Angleterre et donc grâce à ça, l'Angleterre est devenue le point qui a permis aux Alliés, aux Américains de reconquérir notre pays et de nous libérer donc de la férule nazie. Et en fait, cette bataille d'Angleterre, c'était pas des dizaines de milliers d'hommes, des centaines de milliers d'hommes, c'était 1000 ou 1500 pilotes d'avions anglais qui ont, donc un tout petit nombre, qui ont garanti la liberté de peut-être 40 ou 50 millions de personnes. Parce qu'ils ont repoussé, par leur courage, ils ont repoussé donc l'envahisseur allemand. Et Churchill a eu cette phrase célèbre, il a dit « Jamais dans l'histoire des conflits humains, un si grand nombre d'hommes a été redevable d'autant à un si petit nombre. Donc il a dit, en fait, effectivement, c'est un tout petit nombre de soldats valeureux, et ils ont tout leur pays, le pays leur devait tout, le pays leur devait leur liberté. Et je trouve que c'est un magnifique exemple de vocation. Alors, ces gens-là, la plupart étaient sans doute pas chrétiens, mais il devait y en avoir, mais la plupart ne devaient pas être chrétiens, mais on a vu que le Seigneur, il utilise les non-chrétiens aussi, dans leur vocation, pour faire le bien au monde. Donc un tout petit nombre d'hommes ont apporté une immense bénédiction sur des millions d'hommes et de femmes. Eh bien, je ferai le parallèle avec ces grèves. Moi, j'ai vécu ici toute mon enfance. J'ai eu des grèves tous les ans, depuis les années 70. C'était le bazar tout le temps. Franchement, le bazar tout le temps. Et ce qui s'est passé au printemps 2018 ou en décembre 19, c'était pareil. C'était un tout petit nombre d'hommes qui ont répandu la misère sur des millions. Est-ce que ces gens-là ont exercé leur vocation de conducteur de train d'une façon conforme à la parole de Dieu? Je vous pose la question. Dans votre âme et conscience, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que, comme ce qu'ils ont fait, bloquer les transports, faire un bazar, mais colossal, je pense que vous avez tous été touchés, pour défendre leurs propres intérêts, est-ce que c'est quelque chose qui correspond à la vocation, au sens biblique du terme, c'est-à-dire répandre l'amour de Dieu sur son prochain? Je répondrai non à cette question. Je pense que ça ne peut pas être le cas. Je pense que ça ne peut pas être le cas. Mais il y a d'autres raisons pour considérer que ce genre de mouvements ne sont pas bibliquement justifiables. Parce que cet exemple-là, il est un peu caricatural, même s'il est réel, mais parlons d'autres grèves. J'ai parlé également hier, si on remonte 150 ans en arrière, des grèves des mines du Nord. La situation était beaucoup plus bien différente, parce que là, on avait des pauvres gens qui ont été poussés à faire ces grèves-là. Ils étaient un peu comme les esclaves en Égypte. On a vu que c'était des gens qui étaient misérables. Leur situation était vraiment légitimement misérable. Il y avait de quoi se révolter. Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Est-ce qu'ils ont raison de se révolter? Je pense que d'un point de vue biblique, non. Je pense qu'ils n'ont pas eu raison d'un point de vue biblique. Jamais Jésus ne nous recommande de nous révolter. Jamais. Et au contraire, que dit la parole? La parole, elle dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Romains 12, 18 à 20. Ça, c'est l'attitude du chrétien devant une oppression, devant une agression, devant la méchanceté. C'est comme ça que le chrétien doit réagir. Et vous savez, dans notre histoire, on a eu la Révolution française. Et je suis certain que les gens qui se sont révoltés à la Révolution française, ils en avaient certainement, comment dire en français, gros sur la patate, parce qu'ils avaient eu des rois, Louis XIV, Louis XV, qui étaient des gens qui devaient dépenser l'argent du pays de façon effrénée. Et donc, il avait probablement dû amener le pays dans une situation misérable. Et puis, il y avait aussi une noblesse qui se comportait de façon arrogante. Enfin, il y avait vraiment des vraies raisons sur le plan humain de ne pas être content et de le manifester par cette révolution. Mais regardez ce qu'elle a donné, cette révolution. Des dizaines de milliers de morts, du sang qui a été versé, des guerres jusqu'en 1815. Donc, la révolte, même si elle peut être justifiée, si elle peut être compréhensible, elle n'apporte pas de bonnes choses. Et de façon intéressante, les Anglais qui vivaient la même chose à la même époque dans leur pays, ils n'ont pas fait la révolution parce qu'ils ont eu le mouvement méthodiste. Et le mouvement méthodiste, ça a été un réveil, un énorme réveil en Angleterre, un réveil chrétien, protestant, qui a transformé les gens et qui a fait qu'ils n'ont pas fait la révolution. Donc méditez un peu sur ces choses. Comment un chrétien, dans son travail, doit réagir à une situation d'oppression? Qu'elle soit légitime, j'entends. Je ne parle pas de gens qui veulent défendre leurs intérêts de façon égoïste. Et un autre verset, 1 Pierre 2, 23. Jésus, c'est Jésus, lui, qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc ça, ça c'est comment le chrétien doit réagir. Le chrétien, dans une situation d'oppression, dans le travail, c'est comme ça qu'il doit réagir. C'est pas, je fais la grève, je bloque tout, je manifeste, je vais tout casser. C'est maltraité, il ne fait point de menace, et il s'en remet à celui qui juge justement. Et c'est intéressant parce que ce verset, il est dans un passage toujours de 1 Pierre 2, au verset 18, qui est lié aux relations de travail, qui dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Donc notre attitude, c'est très difficile. Tous ceux qui travaillent ont connu ces situations de harcèlement ou d'oppression, ou les connaîtront. C'est pas facile du tout. Et ce n'est qu'avec l'esprit du Seigneur et un cœur régénéré qu'on peut avoir la capacité de réagir ainsi. Une réaction où on supporte les afflictions par motif de conscience, quand on souffre injustement. Et on est soumis en toute crainte à nos maîtres, même quand ils sont injustes. Alors, s'il y a eu ces situations, notamment donc en France, dans les années 1880, les grèves dans les mines, c'est parce que les patrons, les employeurs, s'étaient mal comportés. Parce que les employeurs s'étaient mal comportés. Et on peut aussi être en situation d'être des employeurs. Hein, et la parole, elle a aussi des choses à dire à les employeurs dans les relations de travail. Et elle dit aux employeurs de traiter équitablement leurs employés. Elle dit, Maître, donc Colossiens 4, verset 1, Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc les maîtres, ils doivent aussi traiter leurs serviteurs de façon équitable. Et s'ils le font, il n'y aura pas ces situations de grève comme il y a eu j'ai parlé des grèves dans les mines du Nord, il y en a eu bien d'autres. Mais nulle part, la Bible, la parole n'incite à la révolte des esclaves contre les maîtres ou des ouvriers contre les patrons. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Il y avait 2 millions d'Israélites. Ils ne se sont pas révoltés. C'est Dieu qui les a libérés. C'est Dieu qui les a délivrés. On ne nous dit pas qu'ils sont révoltés. Sans doute qu'ils auraient pu prendre les armes. Ils étaient nombreux après tout. Ils ne l'ont pas fait. La Bible ne prône pas la lutte des classes. C'est important ça. Vous réalisez peut-être pas qu'on est dans une société qui est complètement imprégnée de la pensée marxiste. La pensée de révolte, la pensée d'opposition. Ils appellent ça vraiment la lutte des classes. Où en fait, la philosophie, c'est que les opprimés doivent se rebeller contre les oppresseurs. Et ça continue jusqu'à ce jour. Et maintenant, c'est pas seulement les ouvriers contre les patrons, c'est les femmes contre les hommes, c'est les noirs contre les blancs, c'est les LGBT contre les hétéros. C'est une philosophie de haine et de guerre permanente. Et ça, il faut être conscient que c'est ce dans quoi nous vivons, en particulier les parents pour vos enfants, parce que c'est ce qu'on leur enseigne à l'école. Mais ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. Il n'y a pas de point commun entre le marxisme et le christianisme. En fait, les deux sont fondamentalement opposés. C'est vrai que la Bible condamne les patrons qui sont injustes envers leurs ouvriers. Elle les condamne. Mais ce n'est pas parce qu'elle les condamne qu'elle dit aux ouvriers de se rebeller. La réponse selon Christ, c'est la patience et la soumission. La réponse selon Marx, c'est la rébellion et la révolution. Regardez ce que ça a donné. Regardez ce que ça a donné en Russie, 1917. Regardez la Russie. Ce que ça a donné, le carnage. Regardez la Chine de Mao, des millions, des dizaines de millions de morts. Regardez le Venezuela aujourd'hui de Chavez. C'est des choses qu'il faut être conscient. Je ne veux pas faire de politique, mais il y a des choses tellement évidentes. Et surtout, le problème, il est important, c'est que dans l'Église, il y a des mouvements, notamment dans l'Église catholique, il y avait un mouvement qui s'appelait la théologie de la libération, à la fin du siècle dernier. L'Église catholique dans laquelle j'étais élevé était complètement imprégnée de ça. Ça a totalement contaminé aussi une partie de l'Église évangélique, hein, l'Évangile social. L'Évangile, ce n'est pas social. L'Évangile, c'est le salut par Jésus-Christ. Donc Dieu condamne l'oppression dans le travail, mais c'est lui qui juge et c'est lui qui appliquera la sentence. J'entendais une série sur Jésus qui sort en ce moment, et puis il y avait un très beau passage où il y a un enfant qui interroge Jésus, qui lui dit, qui veut rendre des coups à un enfant qui l'a embêté, mais il dit, est-ce que la Bible dit pas œil pour œil? Et Jésus lui dit, dans cette série, hein, mais il aurait parfaitement pu dire ça, il lui dit, oui, mais ça c'est au tribunal. Il y a des lois, et les lois il faut les respecter. Et c'est Dieu qui jugera, c'est pas nous qui jugeons. C'est pas nous qui devons nous ériger en juge. Et notre véritable employeur, en fait, notre véritable employeur, c'est le Seigneur. C'est ce que dit la parole. La parole, elle nous dit, « Serviteurs, obéissez en toute chose à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Donc en fait, on travaille, notre employeur ultime, c'est Jésus. Également dans Éphésiens 6, 5, 7, verset 7, « Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. » On doit servir nos maîtres, nos employeurs, comme si on servait le Seigneur. Et pour les maîtres, et vous maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux et que devant lui il n'y a pas de favoritisme. Donc en fait, c'est Dieu notre ultime employeur. C'est lui notre ultime employeur. Donc voilà pour les relations donc, dans le travail, les relations avec la hiérarchie. Maintenant, parlons des relations avec les collègues. Parce que les relations de travail ne se limitent pas à l'employeur, il y a aussi des relations avec nos collègues. Et tous les péchés liés aux relations humaines, ils sont susceptibles de se manifester dans le travail. Tous les péchés. Quelques remarques là-dessus. Donc le travail, c'est un environnement qui peut être très dur, le travail professionnel, parce qu'il y a des employeurs qui peuvent être durs, mais il y a aussi des gens... On a parlé hier, on a utilisé l'expression workaholic, des gens qui travaillent, pour eux, leur travail c'est tout, et on n'a pas intérêt à se trouver sur leur route s'ils sont ambitieux. Puis il y a la pression sur la productivité. Il y a la complexité des organisations globales, où on a les gens sont interdépendants les uns des autres dans leur travail, puis ça crée des tensions, il y a des conflits entre les personnes, puis il y a les fruits de la chair, donc querelle, jalousie, animosité, inimitié, calomnie, paroles déshonnêtes, tout ça, on l'a dans le travail en masse. On parlait tout à l'heure avec une sœur à l'heure du déjeuner exactement de ça dans le travail, tout ce qui est la calomnie, les paroles déshonnêtes. Et puis aussi autre chose, c'est que on passe plus de temps au travail avec des personnes de notre sexe qu'avec nos époux, nos épouses. Et on a le danger de voir se développer des sentiments et des relations avec les personnes de notre sexe qui aboutissent à l'immoralité. Il y a un grand danger par rapport à ça. Donc par rapport à ces dangers, on veut suivre les instructions de la parole, j'en citerai quelques-unes. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, Galates 5, 16. Ou bien Romains 6, versets 11 et 12. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc on doit lutter contre... Nous devons lutter. Le travail, c'est un environnement où la chair va vouloir prendre le dessus parce qu'elle est énormément sollicitée dans ses relations, les uns avec les autres. Et là, on doit se rappeler ça. On doit se rappeler qu'on doit marcher selon l'esprit et pas selon la chair. Et on doit se rappeler qu'on doit se regarder comme mort au péché parce qu'on est mort au péché. Le péché n'aura pas de pouvoir sur nous. Et donc, le péché ne doit pas régner dans nos corps mortels. On ne doit pas obéir à ses convoitises. Pour les relations entre les hommes et les femmes, il y a un verset simple qui nous dit de fuir devant les situations dangereuses. 1 Corinthiens 6, 18, fuyez la débauche. Et je pense que ça peut être réalisé en s'efforçant vraiment d'éviter toute situation où un homme peut se retrouver seul avec une femme pendant une période prolongée. Pas une bonne situation, ça. Peut être une situation dangereuse. Quand j'étais auditeur interne chez Michelin, j'avais un collègue américain chrétien qui refusait, il avait entièrement raison, il refusait de partir en mission, parce qu'on partait en binôme d'auditeurs, c'est un homme marié, il refusait de partir en mission avec une jeune femme, parce qu'il voulait pas, il savait les risques que ça pouvait induire. Et il surprenait beaucoup les Français, mais c'était un super témoignage. fait, dans le travail, on est immergé dans le monde. C'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, c'est qu'on est vraiment immergé dans le monde. Et on n'est nous-mêmes pas du monde. Et on veut se rappeler l'exhortation de Paul, Romains 12, et il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, donc le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On doit toujours se dire « Je suis immergé dans le monde, je suis imprégné en permanence par la pensée du monde, mais je dois lutter contre ça, je ne suis pas du monde et je dois avoir mon intelligence renouvelée. » J'arrive à la fin de ma troisième partie. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Il y a un autre point important, le témoignage. Je ne pense pas que le but numéro un du travail soit le témoignage. Mais le témoignage devrait être un résultat naturel de notre vie transformée. 1 Pierre 2,12 « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Et encore Philippiens 2, 14, 16 « Faites toutes choses, sans murmure ni hésitation, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Nous les Français, on fait souvent les choses avec murmure et hésitation, mais notre attitude doit être tellement transformée qu'elle attire l'étonnement et parfois même jusqu'à l'hostilité de la part de nos collègues. Notre respect de la hiérarchie, de notre employeur, notre assiduité au travail, notre empressement à faire ce que nous avons à faire, qui sont tous des signes de fidélité à notre vocation, notre bienveillance envers les collègues, toutes ces choses-là, la pureté de notre langage, aussi la pureté de nos attitudes, ça doit impressionner nos collègues et ça doit être notre témoignage. C'est important, ça, c'est le témoignage passif. C'est-à-dire que les gens, ils sauront très vite que vous êtes chrétien. Mais une fois qu'ils savent que vous êtes chrétien, ils doivent voir ces choses-là dans notre vie. Ça, c'est vraiment le témoignage. Sans parole, comme dit 1 Pierre 3. Alors, est-ce qu'on doit témoigner activement? Moi, je ne serais pas là aujourd'hui si un collègue de travail américain ne m'avait pas invité dans son église il y a bientôt 15 ans. Je ne serais pas là aujourd'hui. Donc évidemment, il y a une place pour le témoignage actif. Mais je pense que c'est un témoignage qui sera d'autant plus efficace que s'il vient d'un cœur qui est rempli d'amour pour les perdus et qui s'accompagne d'un témoignage passif qui soit irréprochable. Donc, et quand cet ami qui est déjà venu ici d'ailleurs, juste après qui m'a invité au culte un dimanche, j'étais donc vraiment pas chrétien, je travaillais avec lui la semaine d'après et je peux vous dire que je regardais tout ce qu'il faisait. Et j'évaluais tout ce qu'il faisait pour savoir si c'était bien ou pas bien. Donc les gens du monde savent très bien, parce que la loi est écrite dans leur cœur, ils savent très bien ce qui est bien ou pas bien. Donc si vous êtes chrétien, vous avez intérêt à bien vous tenir. Enfin, si vous voulez témoigner, je veux dire, vous avez intérêt à bien vous tenir. Voilà, donc en conclusion, et je serai rapide, on va résumer un peu ce qu'on a vu dans cette session. Donc on a vu qu'une éthique chrétienne du travail, elle est caractérisée par la vertu de l'industrie, qui consiste à travailler beaucoup tout en respectant ses vocations professionnelles et ses vocations non professionnelles, la famille, l'église. On a la vertu de l'excellence. Elle prend sa source dans l'imitation du Seigneur qui fait tout à merveille. Donc dans notre travail doit être marqué par l'excellence. Le chrétien, concernant l'argent, il ne rechigne pas à gagner de l'argent parce qu'il en a besoin pour vivre et il peut en gagner beaucoup s'il est prêt à donner beaucoup. Et s'y prend garde à ne pas tomber dans l'amour de l'argent. Les relations du chrétien, les relations de travail sont marquées par la soumission et par l'amour. Soumission envers son patron comme s'il travaillait pour Christ. Amour chrétien envers son patron, envers ses collègues, envers ses employés. Et le chrétien témoigne de Christ dans son travail, surtout par sa vie transformée, et il est prêt à témoigner, comme dit 1 Pierre 3,15, prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et toutes ces choses, elles doivent être le résultat d'une vie transformée par l'esprit. Une vie dans laquelle on marche selon l'esprit et non pas selon la chair. Je voudrais rappeler juste deux images que je trouve frappantes, et puis après j'aurai terminé. Je reviens sur l'image des maçons, mais pensez à ça dans votre travail. Je trouve que c'est une image frappante. Deux maçons qui fabriquent une maison, ou deux ouvrier du bâtiment qui fabrique une maison, puis il y en a un qui le fait pour gagner sa vie, et puis l'autre, il le fait en pensant à ceux qui vont habiter dans la maison. Donc, je pense que dans notre travail, alors, c'est pas toujours aussi simple, mais on peut être dans une situation comme ça. Pensez à celui qui va utiliser le produit de votre travail. Et dites-vous, je vais le faire du mieux que je peux, comme Jésus aurait fait une chaise. Et pensez à comment vous aimeriez trouver un appartement dans lequel vous allez rentrer pour la première fois, si vous êtes dans l'ouvrier du bâtiment. Une autre image qu'on a, parlé hier beaucoup de la futilité du travail, donc on a vu que dans Ecclésiaste, en fait, l'Ecclésiaste parle du fait que le travail, il y a une sorte d'absence de sens dans le travail. Et j'ai pris l'image des tailleurs de pierre. Donc c'est une histoire où il y a trois tailleurs de pierre. À l'époque du temps des cathédrales, ils sont en train de tailler des pierres, et puis un homme passe et il demande au premier « Qu'est-ce que tu fais ?» Et l'homme lui répond « Je taille une pierre. » Et puis il demande au deuxième « Qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « Je construis une cathédrale. » Et il demande au troisième « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je travaille pour la gloire de Dieu. » Donc en conclusion, c'est ça que nous voulons faire, c'est travailler pour la gloire de Dieu. Et si nous faisons ça, notre travail aura beaucoup de sens. Prions. Père Céleste, en disant ces choses aussi bien moi, Seigneur, que certainement beaucoup de mes frères et mes sœurs, nous nous disons, mais qu'est-ce que la barre est haute? Combien je ne fais pas ces choses? Combien je ne pratique pas ces choses? Combien de fois, Seigneur, tu m'as pris en défaut, tu aurais pu me prendre en défaut. Tu ne m'as pas jugé selon mon iniquité, mais tu as tout vu. Et tu sais combien j'ai été défaillant. Mais Seigneur, je n'en veux pas regarder derrière, je veux regarder devant. Comme l'a dit l'apôtre Paul, et Seigneur, je veux me projeter dans cette vie qui nous attend à partir de demain et mettre en pratique les choses que tu nous enseignes. Seigneur, puisses-tu par ton esprit, jour après jour, nous donner dans notre travail ce témoignage par la perfection, par l'excellence, par l'amour de nos prochains, par l'amour de nos employeurs, de nos employés, de nos collègues, de ceux qui sont les destinataires du fruit de notre travail. Seigneur, nous avons besoin de toi pour que tu nous aides et nous voulons pouvoir te glorifier. Pas nous glorifier nous-mêmes, mais nous voulons que le jour où nous serons devant toi, dans l'éternité, tu nous dises bon et fidèle serviteur. Ce serait la plus belle chose, Seigneur. Je te prie au sein de ton Fils. Amen.